Salut les amis.
Salut Guillaume.
Alors c'était bien vendredi.
Ah bah, ouais. On a un spécialiste en neurologie.
Ouais. On va parler dans ces trois sujets du cerveau, de comment il fonctionne, de quoi il est composé.
Ah bah attends, d'accord. Vous avez parlé du cerveau un jour où j'étais pas là, quoi.
Ah, on a pensé que tu serais pas d'une grande plus-value sur le sujet.
Ah, voire même que ça pourrait te choquer de savoir qu'on peut faire autant de choses avec cet organe.
Ouais, ça va. Ouais. Du coup, vous avez parlé de quoi?
Bah, on a fait un sujet qui aurait pu t'intéresser.
Que se passe-t-il dans la tête de Gérard Collomb?
Oh, mais j'avais plein de choses à dire, moi.
Ah bah ouais, mais t'étais pas là trop tard.
On avait hésité avec que se passe-t-il dans la tête de Jacques Chirac, mais fallait quand même tenir 3 minutes.
Attendez, il y avait qui autour de la table?
Une belle équipe.
Oui, non, ça je me doutais, mais il y avait qui?
Bah écoute.
Eh bien, qui vois-je, Thomas VDB, grand retour. Christine Gonzalez, grand retour aussi. Et Juliette Arnaud, dont on n'arrive pas à se débarrasser.
Attendez, vous avez parlé cerveau avec Juliette et VDB?
Ah, mais c'est des cerveaux intéressants, ça.
Bah, disons qu'ils ont été soumis à des produits, on va dire, cocasses.
Non, mais, voilà, mais moi, je suis un cerveau intéressant aussi.
Toi, surtout pour la dissonance cognitive, alors.
Ah, bah ça y est, monsieur est devenu un spécialiste du cerveau. Ça, c'est,
il a raison. Hein. D'ailleurs, Lionel Nakache, il nous a parlé d'une expérience.
Bah, qui serait intéressante à faire avec toi.
Vous prenez des gauchistes de Berkeley, vous leur dites plancher pendant 4 heures pour autoriser la peine de mort. Ils mettent toute leur intelligence pour le faire. Quand vous les débriefez après, ils ont fait quelque chose qui va contre leurs valeurs, eh bien, ils vont changer de position. Ils vont dire, vous savez, la peine de mort, c'est une question plus complexe.
Bah, alors moi, je tombe jamais là-dedans, moi.
Va te mettre 2 heures dans un bureau et essaye de dire que les véganes sont des salauds.
Ah, ok, bah alors là, pas de problème.
Ouais, c'est ça.
2 heures plus tard.
Voilà, c'est bon. Alors, pourquoi les véganes sont des salauds?
Alors,
j'ai réfléchi.
On lira ça après le sandwich. Charline, tu prends quoi?
Moi, camembert.
Ok, moi, Emmental. Et Guillaume, tu prends quoi?
Moi, je vais prendre un saucisson. Et jambon de pays. S'ils ont des rillettes, qui rajoutent aussi.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez la start-up du service public. Et voici les 3 informations qui ont passé la journée en conf-call. La ZAD s'est réveillée à coups de pompe dans le train par les gendarmes ce matin pour faire respecter l'état de droit, monsieur, sur le bocage. 2500 gendarmes expulsent 250 zadistes. Quelle est l'ambiance sur place?
Faites évacuer les femmes et les enfants, j'ai rasé le littoral.
Une fondation propose aux joueurs de foot de reverser 1% de leur salaire à des ONG. Alors au PSG, il n'y a que 2 joueurs qui participent à cette initiative. Il s'agit de 2 joueuses. Et oui, c'est l'équipe féminine qui sauve la mise.
C'est un combat social que je te propose, bordel de merde. C'est une gifle au foot capitaliste.
À quel âge va-t-on mourir? Cette question nous taraude toute la vie et il arrive qu'on meure sans avoir le temps de connaître la réponse. Alors des chercheurs prétendent avoir trouvé une méthode. Ils en ont fait une appli smartphone gratuite.
Imagine, ton médecin t'annonce que tu vas mourir demain et toute la journée, t'as la chanson de Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre.
Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui aspire à une longue vie de brève. Alex Vizorek.
Exactement, et non pas une brève vie de long. Autour de la table, une belle équipe.
C'est une belle équipe
aujourd'hui. C'est une belle formation. Oui, c'est une belle formation. 17h20, l'équipe de football de son pays est surnommée les étalons, ce qui explique sans doute pourquoi le Burkina Faso est meilleur en 3e mi-temps que sur les 2 premières. N'est-ce pas, Rukyata Ouedraogo? Bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi
bonjour
parler,
les amis. Aujourd'hui, nous allons parler football.
Bah, c'est pas vrai, la chance. À 17h30, celui qui a déclaré à SoFoot, j'aurais aimé devenir Chilavert, mais j'ai le physique de Grégory Vimbé.
C'est vrai, c'est blague de spécialiste, mais c'est vrai. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je suis allé à une grosse teuf organisée par La République En Marche sur le thème de l'Europe. Attention les yeux!
On a quand même l'Europe chevillée au corps.
Oh les déglingos, ils citent des Ségolène Royal, c'est des malades.
Et enfin à 17h40, pour paraphraser George Best, qui avait dit « Si j'avais été moche, vous n'auriez jamais entendu parler de Pelé ». Lui a dit « Si j'avais été gros, vous n'auriez jamais entendu parler de Depardieu ». C'est vous Hippolyte Girardot, bonjour.
Je demandais où t'allais venir, c'est compliqué. Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui j'ai parlé ballon, mais pas celui-là.
Oh. Et voici la capitaine de l'Open Space. Oui. Vous commencez à jouer au foot à l'âge de 5 ans et que vous intégrez le club de Sainte-Mémy, c'est près de Châlons-en-Champagne si je ne m'abuse. Vous grimpez de 4 divisions en seulement 10 ans. En 2001-2002, vous êtes élue meilleure joueuse de Ligue 1. Avec vous, les Bleus se qualifient pour la première fois de leur histoire à la Coupe du Monde 2003. Vous êtes aussi la première française à signer comme professionnelle aux États-Unis. Vous êtes considérée comme la première star du foot féminin en France. Commentatrice aussi pour France Télévisions. Vous êtes aussi une grande militante pour les droits des homosexuels. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Attention, Marinette Pichon.
Allez, Marinette. Allez.
Ouais, ouais, merci hein, pour l'accueil là-dessus. Vous êtes magnifique.
Par Jupiter. Voilà, on espère qu'on va prouver qu'on a une bonne équipe, Marinette.
Vous avez la pression un petit peu, non?
Ah oui, évidemment.
On, coach, enfin,
on sait qu'on a un super coach avec nous, donc on est rassurés.
On peut parler comme dans l'after foot d'RMC ou pas?
Essayez.
Ah, il n'y a pas péno là. Qu'est-ce que tu dis, Eric? Tu dis n'importe quoi.
C'est pas mal, pendant une heure.
Vous écoutez la radio concurrente?
J'écoute dans les taxis.
Alors que c'est quand même tellement plus agréable, une voix féminine pour commenter le foot, franchement. N'est-ce pas, Marinette Pichon avec nous? Vous publiez un livre qui s'appelle « Ne jamais rien lâcher ». C'est paru chez First Edition et notre spécialiste foot et femmes, Alex Vizorek, se plonge dedans.
Effectivement.
Juste en face de moi, c'est magnifique.
Non, mais deux de vos passions.
Je suis un fan de foot et comme je sais qu'en plus la Belgique va gagner la Coupe du Monde, vous voyez que je suis de bonne humeur en ce moment. On dit de vous, assez facilement pour vous présenter, c'est la Zidane du foot féminin. Mais est-ce que vous ne préféreriez pas qu'on dise c'est la Platini ou est-ce que vous ne préféreriez pas qu'on dise c'est la Coppa? Parce qu'on ne peut pas citer un seul nom de footballeuse féminin avant le vôtre.
Bah, en fait, dans les trois registres, dans les trois noms, il n'y en a aucun qui me correspond vraiment.
Parce qu'ils ne sont pas au même poste. Par rapport au
Alors, je dirais plutôt Jean-Pierre Papin.
Si on devait
faire un rapprochement, ce serait plutôt Jean-Pierre Papin, parce que dans la gestuelle, il y a quelque chose. C'est... Après, c'est un honneur, évidemment, d'être...
Vous faisiez des marinettes par rapport au
papinette. Je faisais des papinettes.
Des marinades, oui.
Oui, des papinettes. Donc, voilà.
Ce livre, vous expliquez votre carrière... comment vous avez commencé, parce qu'évidemment quand on est une fille c'est pas évident de se dire tiens je vais faire du foot, mais vous dites surtout j'aimerais parfois rechausser les crampons quand vous voyez le niveau de l'équipe de France féminine aujourd'hui. Alors est-ce que c'est vous qui auriez dû naître 15 ans plus tard ou est-ce que c'est aussi grâce à vous qu'elles ont ce niveau-là aujourd'hui?
Non, je pense que le niveau évolue tout simplement parce que la fédération s'est donné les moyens de développer avec une vision qui était jusqu'à la Coupe du Monde qui arrive là en 2019, plus une vision ensuite après cette Coupe du Monde, un plan de développement qui a vraiment explosé entre 2011 où l'équipe de France a fait son premier résultat et je crois qu'elles n'ont pas tout simplement pas attendu Marinette Pichon et il y a eu des autres copines parce qu'on parle de moi mais il y a aussi une team, vous le savez bien, vous autour de cette table, à un moment donné il faut
on
qu'on
pense
soit...
que Charline, alors ouais.
C'est normal, c'est une femme. Hein. Voilà, après, elle est soutenue quand même. Mais non, il y a eu vraiment des exploits réalisés par notre équipe de France. Et puis derrière, il y a aussi cet engouement médiatique qui s'est simplement mis en place, qui a permis à notre équipe de France de rayonner et de connaître ce qu'elle connaît aujourd'hui dans leur niveau.
Et l'engouement médiatique, il vient d'où? Est-ce que, comme en politique, on a forcé un petit peu des institutions, on dit mais il faudrait quand même équilibrer, etc. Ou il est venu plus ou moins naturellement quand même?
Non, il y a eu un vrai élément déclencheur de la part des deux médias que sont France Télévisions et Eurosport qui, après la Coupe du Monde en Allemagne, se sont dit nous, on a envie de miser sur le développement du foot féminin et sur la D1.
Puis il y a eu les maillots moulants aussi.
Ouais, pas tout de suite. Et puis on n'échange pas les maillots, Alex. On évite de montrer les sous-vêtements, on ne peut pas de marque. Voilà, ouais. Aux États-Unis, on le voyait ça.
J'étais en Erasmus en Allemagne, donc ça remonte il y a 15 ans, et j'ai regardé la finale de la Coupe d'Allemagne à la télévision, c'était Potsdam contre Berlin, inimaginable en France à l'époque.
Bah oui, parce qu'on a vraiment un train de retard avec ces nations qui développent et qui mettent des actions en place dans leur système scolaire. Nous, on n'est pas encore à ces étapes-là, donc on avance qu'à travers l'équipe Fagnon, l'équipe nationale et le championnat, même si on ressort quatre équipes concrètement aujourd'hui dans le championnat, c'est compliqué et c'est pour ça que cette équipe de France et ses résultats sont extrêmement importants.
Mais quand vous parlez moi j'ai trouvé ça impressionnant, quand vous racontez que quand vous alliez jouer en équipe de France, vous étiez payé 150 francs, même pas 25 euros. Et vous dites, j'aurais trouvé ça hallucinant que quelqu'un vienne laver mes pompes. C'est moins comme ça aujourd'hui, où il y a quand même toujours un fossé. L'équipe de foot féminine, elle est, comment dire, chouchoutée comme quelle équipe si on compare au championnat masculin? On est en national, on est en...
Non, elles sont chouchoutées comme le sont les garçons. Elles sont accueillies au château quand les garçons ne le sont pas, elles ont les préparations sur les mêmes terrains. On prend soin de leur consacrer du temps de repos, des phases de préparation, de réathlétisation. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Aujourd'hui, on a vraiment passé un cap. On était très bien reçus à la fédération ou à Clairefontaine avant. Sauf que maintenant, on a vraiment de la matière à produire. Et on n'est pas fou à la Fédé. Hein. Donc, à partir de là, on se donne les moyens d'avancer et de mettre nos joueuses dans les meilleures conditions.
Et ça marche, vous dites, de 40 000 licenciés. On est passé à 130 000 en seulement 6 6 ans. Donc bah voilà, si vous avez des filles, pensez que peut-être elle pourrait aimer le foot.
Eh oui, on va en reparler d'ailleurs, puisque Marinette Pichon est avec nous. Je rappelle, son livre s'intitule « Ne jamais rien lâcher », paru chez First Edition. Et on aura l'occasion de revenir à l'ouvrage avec le deuxième sujet qu'on a choisi sur cette ONG qui propose aux footballeurs de reverser 1% de leur salaire annuel. C'est vertigineux. Oui, Marinette est avec nous jusqu'à 18h. C'est la capitaine de l'équipe du jour. Bowie sur France Inter, il est 17h21 et Marinette Pichon est avec nous, qui a amené les Bleus pour la première fois en Coupe du Monde. C'était en 2003 et puis carrière internationale.
Elle a hoché la tête parce qu'il y en avait 10 autres autour d'elle.
Oui, en plus c'est les remplaçants, voilà. Ouais, faut pas les oublier.
Ouais, si on doit en plus citer les remplaçants, ça suffit.
Tête de gondole du football féminin quand même. Voilà, Marinette Pichon qui publie Ne jamais rien lâcher, paru chez First Edition. Et on vous interrogera tout à l'heure sur le fait que vous ne lâchez rien et d'où vous vient tout cela. Et en attendant, pour entourer Marinette,
que les buteurs, que les centres avant.
Moi, je t'ai gardé un.
Oui, c'est vrai. Guillaume Berizou, Rukia Ouédraogo et Hippolyte Girardot.
Et Alex et moi, assis au dernier rang de la rédaction de France Inter, près de la fenêtre et du radiateur, nous avons préparé un journal d'information.
Johnny Hallyday m'avait dit tout à l'heure, je serai là à 17h15, vous pouvez m'excuser.
Le journal de presque 17h17.
Eh bien, il a tenu parole, il est là à 17h17. 17.
Très bien, maintenant tout voisinage est au courant.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron répondra cette semaine à deux interviews, jeudi sur TF1 et dimanche sur BFM et RMC.
Oui, on imagine évidemment que sur TF1 et sur BFM et RMC, il défendra le service public bec et ongles.
L'opération d'expulsion des zadistes de Notre-Dame-des-Landes a débuté ce matin.
Oui, et franchement, c'est pas sympa. Les zadistes ont l'habitude d'être défoncés dès le matin, mais pas par des coups de matraque.
Il y aura des brèves.
Oui, parce que vous avez beau essayer de les expulser, les brèves, et ben elles seront toujours là.
Ah, que je t'aime. Que je t'aime.
Alors, précision, il a accepté aussi Mediapart cette semaine, notre ami Macron. C'est tombé aujourd'hui. Et donc, on va commencer par sa semaine médiatique à notre bon président.
Oui, notre bon président sera donc invité du JT de Jean-Pierre Pernaut jeudi.
On a hâte. Et c'est vrai que, on a hâte d'avoir son sentiment sur le dernier sabotier en retenue du marché de Montboul-les-Poils. C'est vrai, on a
et
hâte.
D'après l'AFP, Jean-Pierre Pernaut interviewera Emmanuel Macron dans l'école de Berduy, un petit village de l'Orne en Normandie.
Non mais on a déjà fait la blague sur juste avant.
Ah non, c'est pas une blague. Non, Jean-Pierre Pernaut. L'école de Berduy, petit village charmant de l'Orne en Normandie.
C'est pas une blague.
Non, bah oui. Alors détail intéressant. En 2011, l'éditorialiste, enfin l'ex-éditorialiste Bruno Roger Petit, s'était moqué de l'interview de Sarkozy face à Jean-Pierre Pernaut, parlant notamment d'une émission 100% télécommandée par l'Élysée.
Bruno Roger, aujourd'hui il est porte-parole d'Emmanuel Macron et manifestement, entre-temps, il a développé une passion pour les jouets téléguidés.
Toujours à propos de notre bon président, il a reçu le prince héritier d'Arabie Saoudite à dîner hier soir au musée du Louvre.
Et oui, et en passant devant la Vénus de Milo, ce dernier a demandé ce qu'elle avait bien pu faire pour qu'on lui enlève aussi loin la main.
International. Samedi, une attaque à la voiture Bélier a eu lieu à Münster, en Allemagne. Une fourgonnette a fait deux morts en surgissant dans une petite rue touristique à une vitesse de 50 km/h.
Oui, ce qui reste toutefois moins rapide que la vitesse à laquelle Manuel Valls et Éric Ciotti sur Twitter ont tenté la récup politique, alors que la piste islamiste n'avait pas encore été écartée et pas de bol.
Venons-en à l'opération d'expulsion des zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui a débuté ce matin à l'aube.
Voilà, l'aube pour un zadiste, c'est je dirais 14h30, comme ça. Voilà.
Le gouvernement a interdit aux journalistes de filmer les images de l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes, mais a proposé de mettre à disposition ses propres images.
Et ça, après l'annonce de Macron au JT de 13h chez Pernaut, c'est vraiment une belle semaine noire pour le journalisme.
Parmi les soutiens à l'évacuation ce matin, sur France Info, le FN, Sébastien Chenu.
J'avais dit de façon un peu triviale qu'il fallait sortir les zadistes par dreadlocks et qu'il fallait commencer par cela.
Il fallait sortir les zadistes par dreadlocks. Voilà, il est brillant.
Médecine à présent. Oui. Le pape a apporté son soutien à un bébé britannique en état semi-végétatif.
Oui, et c'est vraiment très bien, parce qu'il y a des hommes d'église qui auraient une attitude moins respectable face à un enfant en plein sommeil.
Télévision.
Oui, Koh-Lanta, Koh-Lanta. Ça vous avez les blagues dégueulasses comme ça, évidemment.
C'est visuel en plus.
Koh-Lanta, à la fin de chaque épisode, hein, vous le savez, Charline, vous qui regardez chaque semaine, on donne un aperçu de l'épisode qui suit.
Bah, si vous le dites.
Et une fois de plus, le candidat belge, d'où ça pas déçu.
En Belgique, on dit « rire, c'est rire, mais prendre mon cul pour interlire, c'est pas rire ». Là, elle a pris mon cul pour interlire et je vais lui rendre la monnaie de la pièce.
Bam, le raffinement vient de chez nous.
C'est imagé.
Internet, des associations accusent YouTube et Google de collecter des données sur les enfants de moins de 13 ans.
Oui, les enfants interrogés répondent qu'ils s'en foutent, hein, ils sont occupés à regarder YouPorn.
Allez, une brève.
Oui, une seule. Essonne, alcoolisé, le maire de Wissous menace des gens du voyage avec un sabre japonais. Apparemment, Jean-Vincent Placé pratique le cumul de mandats.
France Inter, par Jupiter, 17h26. Voilà. Marinette Pichon avec nous, qui publie Ne jamais rien lâcher chez First Edition. Et on va aborder ce premier sujet avec vous, Marinette. 2500 gendarmes sont en train d'expulser 250 zadistes, soit 10 gendarmes pour un zadiste. Ils doivent les aider à faire leur bagage. Je ne vois que ça. En plantant des carottes et des salades, ces gens occupent un terrain. C'est de la colonisation bio, les amis. La zone doit être rendue à l'État et au triton marbré. Si le triton ne s'est pas pris un coup de matraque depuis ce matin. Alors, comment en est-on arrivé à l'expulsion? Petit résumé.
Alors, vous comptez rester longtemps ici?
On ne sait pas. Tant qu'on y sera bien. Pourquoi? Vous y voyez un inconvénient? Non. Mais est-ce qu'il y a un problème?
Le terrain. Il dépend du château. Vous êtes en plein sur les terres de la comtesse.
Mais enfin, c'est encensé. Il n'y a rien ici, c'est un désert, ça peut appartenir à personne.
En France, tout appartient toujours à quelqu'un.
Un extrait de Quelques messieurs trop tranquilles, film de Georges Lautner. Marinette, alors, est-ce que ce fait d'actualité, il vous touche? Est-ce qu'il entre en résonance avec certaines de vos convictions ou ça paraît un peu éloigné de vos préoccupations générales?
Non, évidemment, il y a une certaine forme de résonance. Moi, j'ai suivi, je pense, comme tout le monde, parce que il y a eu une grande couverture médiatique, ouais. L'annonce, les opposants, les zadistes, le décès de Rémi Fraisse aussi. Enfin, voilà, vous voyez, c'est allé une fois encore trop loin quand il y a de la mobilisation, quand on descend sur des zones pour être contre une proposition du gouvernement. Je pense que à un moment donné, il n'y a pas besoin de donner sa vie ou de perdre sa vie ou de rentrer dans des combats physiques pour arriver à entendre ou à trouver un consensus. Donc c'est forcément quelque chose qui me touche. Après, j'espère que ça va se passer en bonne intelligence et qu'il n'y aura pas de blessés, etc., etc.
Mais alors c'est des CRS c'est pas, qui arrivent, c'est ce qui est bonne intelligence.
C'est ça, voilà. Ouais. Mais j'ai encore, moi, je suis un peu dans le monde des bisounours, j'aime croire aux choses quand même. Je veux bien croire qu'on a un gouvernement qui veut faire plein de choses, mais à un moment donné, il faut aussi laisser la parole aux gens. Et entre on fait plus, on va construire un aéroport, on prend en note les avis, on les prend pas, on donne pas de considération, puis on en donne, et puis après, on arrête tout du jour au lendemain, comme c'est le cas depuis le 17 janvier. À un moment donné, il faut se positionner aussi, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est peut-être un peu brutal de voir tout le monde débarquer le matin pour l'évacuation.
Ouais, oui. Quelle serait votre ZAD à vous s'il y avait une zone à défendre pour laquelle vous seriez prête à occuper le terrain pendant des semaines ou voire des mois, c'est-à-dire ferrailler? Est-ce qu'il y a un territoire à défendre pour vous?
Pas forcément. Après, il y a plein de camps où je pourrais me poser, mais pas un seul. Pas un seul. Comme je le dis dans le livre, il y a plein de messages que j'aurais envie de passer, que j'ai passé d'ailleurs, et je pourrais poser mes valises un peu partout en ce moment, je pense. Faire gaffe, parce que du coup, moi aussi, ils vont me dégager.
Mais si vous êtes partout,
attention.
Il y a plein de combats que vous avez envie de défendre. Ouais. Et concernant ce qui est aussi considéré comme un peu un terrain d'expérience, c'est-à-dire que la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, c'est des gens qui refusent aussi le système, la société de consommation, qui veulent prouver aussi, qui veulent prouver des choses qu'on peut peut-être vivre en autosuffisance. Est-ce que c'est un combat aussi que vous regardez avec un œil bienveillant ou intéressé en se disant pourquoi pas mener cette expérience et voir si elle peut mener à quelque chose?
Oui, mais après, si elle est menée et que ça ne donne rien derrière, ce sera un site de plus laissé à l'abandon, qui aura généré une forte économie et qui ne générera plus d'économie derrière et qui va forcément impacter des citoyens qui seront concernés par la zone. Donc c'est une réflexion qui aurait dû être menée en amont en associant tout le monde et pas en imposant quelque chose en disant c'est pas compliqué, on va vous faire un aéroport là, mais vous n'allez pas nous emmerder. Ça se passe pas comme ça en fait. Et peut-être que ça aurait dû être le cas et aujourd'hui on en vient encore une fois à la force pour s'approprier à nouveau la zone, quoi. L'implantation géographique, c'est peut-être ce qui est un peu dommage.
Oui, bien sûr, c'est complètement con de la part du gouvernement de faire ça.
C'est symbolique en fait, il veut montrer les gros bras, il fait le kéké. Ouais.
C'est là où je trouve ça con.
Ouais, ouais. Ah ben on est d'accord.
Surtout aujourd'hui en ce moment.
C'est beaucoup de mandales distribués pour faire les kékés, ça on l'aura bien retenu.
Il faut regarder les images qu'on va recevoir.
Peut-être, ouais, c'est vrai.
Peut-être les amis vont dire on est là, venez, on
partage un pot au feu, c'est super. Marinette Pichon est avec nous, on la surnomme la Zidane du foot féminin. Et à côté de vous, il y a Rukyata Ouedraogo.
Ah ça y est, ça moi.
C'est le nom, vous allez reconnu tout de suite.
Personnellement, j'ai attrapé le virus du foot toute petite en regardant nos mamans. À l'époque, feu, le président Thomas Sankara avait voulu mettre le sport au cœur de la vie des Burkinabés. Une fois par semaine, les fonctionnaires sortaient de leur bureau pour faire quelques exercices physiques. Le sport, nouvelle cause révolutionnaire, s'est répandu dans tous les quartiers. C'est ainsi qu'un jour, j'assistais ébahi à un match de foot entre l'équipe des mamas du quartier de Paspanga et l'équipe des mamas du quartier de Dapoya. Pendant deux semaines avant la rencontre, les mamas de Paspanga s'étaient entraînées tous les après-midi à partir de 17h jusqu'au coucher du soleil pour éviter l'insolation. Comme entraîneur, elles ont fait appel à mon tonton cycliste, celui qui a fait le tour du Fasola. Il n'y connaissait rien au football, mais comme il était le seul sportif de haut niveau du quartier, il fut chargé de les préparer pour la victoire. C'est pour trouver un arbitre incorruptible que ça a été difficile. Ce fut finalement le maire de l'arrondissement, un homme irréprochable qui arbitra la rencontre. Les deux juges de touche étaient le curé du quartier de Dapuya et l'imam du quartier de Paspanga. Enfin, le jour J arriva. Le maire, un bon vivant qui profitait visiblement des douceurs de la vie et qui les portait aussi sur lui, ne pouvait pas courir sur le terrain. Donc, on l'avait installé sur une chaise d'arbitre de tennis empruntée à l'amicale sportive des expatriés. De là-haut, il voyait tout. L'imam et le curé vigilants veillaient de chaque côté du terrain à ce qu'un pagne trop relevé ne dévoile pas une cuisse et qu'aucun sein ne déborde d'un décolleté. Et voilà nos mamans en action sur le terrain. Ma mère était le numéro 10, un sacré bonhomme celle-là. Elle courait avec ses grandes jambes derrière le ballon jusqu'au but adverse et feintait toutes les autres joueuses, même de son camp. Madame Tombiano, la voisine, portait le numéro 6, un vrai bulldozer et mauvaise joueuse. Elle kippait toutes celles qui ne lui passaient pas le ballon. Et quand elle avait enfin si une adversaire menaçait de lui piquer, elle le prenait avec les mains et se mettait à courir en hurlant comme une rugbymane hystérique. Le numéro 8 était ma grande sœur. Ah oui, elle avait fait son service militaire, alors on l'avait nommée capitaine de l'équipe. Du coup, elle donnait des ordres à tout le monde, même à son camp. Même au camp adverse. Le numéro 1 était la femme de mon oncle, Tata Yoyo. On l'avait surnommée comme ça parce qu'elle était folle de la chanson de Annie Cordy. Tata Yoyo. Voilà. Alors, c'était la gardienne de l'équipe des mamas de Paspanga. Elle toisait les adversaires qui s'approchaient de ses buts avec un regard qui disait « Si tu mets un but, je vais te chicoter très fort. » Du coup, ça perturbait les buteuses de l'équipe de Dapuya qui hésitaient un peu à rentrer dans la surface de réparation. Ça commence fort. La balle est entre les pieds de Madame Diallo. Madame Diallo, Madame Diallo, Madame Diallo passe la balle à Madame Tombiano. Madame Tombiano, Madame Tombiano hésite. On dirait qu'elle panique. Madame Tombiano repasse la balle à Madame Diallo. Madame Diallo, Madame Diallo centre vers Madame Sawadgo. Mais Madame Kabore de l'équipe de poulet bicyclette de Dapuya intercepte la balle avec sa tête et l'envoie vers sa coéquipière, Madame Traoré, qui, oh, 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 Madame Traoré fait un impressionnant salto arrière et chute dans la balle et elle marque un but contre son camp. Et du coup, voilà que les mamas de l'équipe de Paspanga se mettent à ricaner et à se moquer des mamas de Dapuya. Ah, le ton est en train de monter entre les deux équipes. Le maire siffle un arrêt de jeu et le curé et l'imam rentrent sur le terrain pour séparer les femmes qui commencent à se toiser méchamment. Madame Togeyini du comité sportif de l'arrondissement propose de faire une pause repas. Pendant laquelle une bonne portion de thon à la sauce gombo est servie à chaque joueuse pour les réconforter. Mais après ce repas, il a fallu faire une sieste digestive et après, il faisait nuit et le match fut reporté. Ah, ça c'était le bon vieux temps. Je voulais vous demander quelque chose, madame. Ça se passait comme ça à l'époque chez vous ?
J'aurais adoré, adoré qu'on fasse à la pause un repas, franchement.
Allez entraîner le façon, Marie Pichot.
Ah oui. Est-ce que je peux intégrer l'équipe des Lyon ou pas ?
Ah oui, ah ben avec voilà. Voilà. Je pense qu'elles seront ravies.
Merci, Roquette. Tout est vrai ? C'est tout est vrai
non,
ou
non,
quoi
Madame Kabore avait tiré au-dessus. Mais ah, sinon, ça, c'était. Non.
Mais l'imam et le curé, ça se fait ? Ça se fait ? Qu'ils soient sur le même terrain ?
Ça serait sympa quand même, non ?
Ah, bah, d'accord.
De retrouver le curé et l'imam sur le même terrain.
Moi, je me suis prise à rêver un petit peu. Oui. Merci, Rouquette Ouedraogo. C'est Marinette Pichon qui est avec nous jusqu'à 18h. Elle publie Ne jamais rien lâcher chez First Edition. On va en reparler avec Alex.
Yeah. Maman T'es Cheval Mouen, c'est Mélissa Lavaux sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. Marinette Pichon est avec nous, elle publie Ne jamais rien lâcher aux éditions First ou First Edition. On la surnomme le Zidane du foot féminin, alors que c'est le PAP, hein, papin, le Zidane du foot féminin.
Didier match définition. Ce soir, Marinette.
Ah oui, France-Canada.
Ah bah voilà, ça passe à la télé, donc on peut regarder les filles jouer ce soir.
Il faut les regarder.
Il faut
regarder.
Et on remercie nos auditeurs qui nous signalent bah, qui par Twitter. Vigiles. Bien sûr. Hashtag par Jupiter. Il y a Rukia Tawedraogo avec nous qui vient de faire sa chronique en nous racontant que les mamans au pays jouent au foot. À venir, Hippolyte Girardot. Et là tout de suite, Guillaume Meurice.
Eh bien, j'ai encore passé un beau dimanche après-midi, moi. Parce que la section La République en marche du 18e a organisé un grand événement hier autour de l'Europe. Et je dois être honnête, ils m'ont invité. Hein, et ça, je dirais, c'est fair play. Marinette, hein, c'est l'esprit Pierre de Coubertin. Voilà, c'est chouette.
Cool. Ouais, bah, et... enfin, l'esprit Pierre de Coubertin, faut faire attention, parce qu'il y a eu des propos en amont.
Oui, alors je ne parle pas de toute l'œuvre de Pierrot, on y reviendra dans une autre chronique. Mais là, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Évidemment, un dimanche après-midi ensoleillé, quoi de mieux qu'aller à un événement La République en marche sur l'Europe, à part se crever les tympans avec un discours de Benjamin Griveaux, je ne vois pas. Donc j'y suis allé et c'était rudement bien organisé. Il y avait par exemple une grande toile blanche avec des bacs de peinture et des pinceaux et on pouvait s'exprimer dessus. Et après, je vous jure, c'est vrai, la toile était offerte à mon Dieu vivant à moi, Christophe Castaner. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur terre comme au ciel, comme au siège de la République en marche. Alors, commençons par ça. Explication sur cette toile avec un militant.
On choisit une couleur en fonction de son opinion dominante par rapport à l'Europe. Et on s'exprime sur le Tadzibao. Là, qui est,
Vous êtes tellement mignon de faire ça.
Mais non, mais c'est simplement pour alerter un petit peu les gens, pour engager une discussion et peut-être parler de choses un petit peu plus sérieuses.
Bien sûr, on commence par un petit coup de pinceau et puis après on passe aux choses sérieuses. La technique visorec avec les filles. Hippolyte aussi, hein, vous faites ça, je vous vois, mais vous êtes, hein, vous êtes jamais le dernier à tremper le pinceau, comme on dit. Alors parlons, s'il vous plaît, parlons de choses sérieuses, hein, c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc l'Europe et la volonté de changer l'Europe avec un autre militant.
Qu'on arrive à une Europe sociale qu'on nous promet depuis tant et tant d'années et qui n'arrive pas.
Donc vous vous êtes dit, je veux plus de social, donc je vote Macron.
Disons, on n'avait pas beaucoup le choix.
Au premier tour, un petit peu quand même.
Bah, au premier tour, soit on arrivait sur des candidats, Monsieur Fillon. Bon.
Pour le social, j'aurais pas pensé immédiatement à Fillon. Moi.
Non, mais bon, voilà.
Ouais, c'est sûr que quand tu veux plus de social, que tu hésites entre Macron et Fillon, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment que, comme si t'es diabétique et que t'hésites entre un baba au rhum et une tarte au sucre. Donc là, c'était la section Les suicidaires avec Macron. Alors j'ai continué avec lui, parce que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il pense, par exemple, du traitement des réfugiés par Gérard Collomb?
C'est honteux, ça c'est honteux.
Mais ça c'est la police de Gérard Collomb.
Oui, bon, oui c'est vrai que je serais peut-être plus humanitaire moi. Bon maintenant...
Non mais peut-être que tout simplement vous vous êtes planté de candidat.
Oui, peut-être aussi.
Oui, alors faites gaffe quand même, ça j'insiste là-dessus, aux prochaines élections, quand c'est marqué Rothschild sur un candidat, c'est pas marqué Emmaüs. Il ouais, y a des indices, au pire vous nous appelez. Alors voilà, nous, c'est un service public, c'est aussi ça. Parce que là, ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée, c'est le vote de la loi Asile-Immigration. Et tous ceux qui pensaient avoir voté Martin Luther King se rendent bien compte qu'ils ont plutôt voté pour un tabouret de PMU sur lequel serait assis Gérard Collomb. Mais pourtant, à La République En Marche, il y a des vrais humanistes, hein, n'est-ce pas monsieur?
Oui, c'est vrai.
Et alors, qu'est-ce qu'un humaniste de La République En Marche pense de Gérard Collomb?
Super question.
Elle est bien.
Elle est super intéressante. Moi, j'ai rien contre Gérard Collomb, j'ai rien pour non plus. Je pense qu'il fait son métier et chacun ses responsabilités.
Ouais, mais quand on voit par exemple que la police gaze des migrants à Calais ou met des coups de cutter dans les tentes, est-ce que vous regrettez pas finalement?
Moi, je regrette rien, mais en tout cas, j'aimerais pas être à sa place.
À la place du migrant ou de Gérard Collomb?
Ouais, malheureusement, des deux.
Est-ce qu'il y en a pas un qui est plus à plaindre que l'autre quand même?
Ça dépend pour qui.
Oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai, c'est une question de point de vue et de passion. Moi, ma passion, c'est les points Godwin. Et on ne pense jamais à la détresse de l'Allemand en 40 sur son Mirador. Et on n'aimerait pas être à sa place non plus. Finalement, on pense toujours les Juifs, mais les Allemands aussi, ils se caillent le cul tout seul. Et pourtant, les commémorations du soldat nazi sont hyper rares, il faut le reconnaître. Il y a une vraie discrimination à ce niveau-là. Alors, puisqu'on parle de fascisme, tiens, c'est intéressant. Il y a par exemple, dans les discussions sur cette loi, un amendement contre les mineurs en prison qui a été rejeté par la majorité. Qu'est-ce qu'il en pense, ce militant?
Je suis pas sûr que les amendements, on puisse pas revenir dessus. Je pense que voilà, c'est pas définitif, hein, parce que je suis d'accord avec vous. Hein. Bah, on n'aime pas la violence hein, chez En Marche.
Ouais, bah, c'est pour ça que vous la sous-traitez au CRS.
Ouais. C'est très drôle.
Ouais, bon, il n'était pas au top de la rigolade, hein, mais c'est pas évident non plus. Ça, c'est comme Gérard Collomb, la dernière fois qu'il a souri, c'est quand il s'est coincé une couille dans son taser. Donc c'est quand même pas évident pour eux. Alors, on est le pays de la rigolade, ça on le sait, mais on est aussi le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Qu'est-ce qu'il en pense, cet autre militant ?
Alors nous, on doit le rester, c'est-à-dire qu'on doit rester sur l'accueil bien fait. Mais pour ceux qui arrivent d'une manière illégale, bien, faut avoir une réponse ferme au départ.
C'est-à-dire qu'il doit demander avant de partir un visa.
Ah ben de toute façon, quand quelqu'un arrive en France, normalement il a prévu d'aller quelque part.
Voilà, ça c'est oui. Quand tu fuis la misère et la guerre, c'est que t'as un projet. Hein, quelque part, t'as un business plan. Au pire, t'as le guide du routard. Là, tu t'organises un petit peu avant de partir. T'as le guide Michelin, c'est un peu plus de goût, quoi. Mais bon, dans tous les cas, on le redit, hein, si vous nous écoutez, avant de venir chez nous, passez par l'ambassade de France de Daesh pour chercher votre petit visa. Comme ça, nous après, on vous accueille bien. C'est important. Alors pour conclure, revenons quand même à cette toile, on a un petit peu abandonné j'ai été sollicité pour participer à l'élaboration de l'œuvre. J'ai donc fait un petit peu de peinture et puis j'avais l'inspiration, j'ai marqué en gros Gérard Collomb démission. Et ben ça va vous surprendre, mais l'accueil de mon œuvre a été plutôt mitigé.
Non, disons que je ne suis pas pour sa démission, c'est tout. Pas pour sa démission.
Bon, après c'était une démarche artistique aussi.
Alors dans la démarche artistique, tout peut être dit.
Ah voilà, c'est ça.
Il faut que ça reste une expression libre.
Voilà, malheureusement, il y a une autre expression libre qui a recouvert ma propre expression libre, comme de par hasard. C'est souvent le problème avec l'expression libre. Elle est souvent souillée par une autre. Exactement d'ailleurs ce que fait la majorité actuelle avec la déclaration des droits de l'homme.
Merci Guillaume Meurice. Donc ça veut dire que la toile offerte à Castaner, ils ont repeint sur votre...
Ils ont repeint. Je mettrai les photos sur les réseaux sociaux, vous verrez.
Ouais. Écoutez, bon,
l'expression libre, comme on dit.
Oui, c'était joli. Les deux étaient jolis. Franchement, moi,
Moi, quand on me demande l'expression libre, je suis jamais le dernier.
C'est subjectif, c'est l'art. Hein. Marinette Pichon est avec nous. On va parler de cette ONG qui propose aux joueurs de foot de verser 1% de leur salaire annuel à des associations. Ça s'appelle Command Goal, le but commun. Et 39 joueurs ont déjà accepté, parmi eux un seul Français. Quant au PSG, qui étouffe sous sa thune, on ne peut pas compter sur un de ces joueurs. Il n'y en a aucun. Mais bien sur deux joueuses, oui, deux Espagnoles de l'équipe féminine du PSG. Et pourtant, comme dirait Zidane...
On a fait quelque chose de biais. On peut faire quelque chose de grand et on peut faire quelque chose de très grand. Donc pour l'instant, on a fait quelque chose de biais. De biais. Donc là, il faut continuer pour faire quelque chose de très biais. Et après...
C'est Zinedine, voilà.
La philo, c'est sublime. Toujours déstabilisant. Hein.
Marinette Pichon. Donc, je pense que ça fait 6 mois que l'ONG existe.
C'est un footballeur espagnol, je crois, qui a lancé l'initiative.
Voilà. Donc, 39 joueurs ont accepté de verser 1% de leur salaire. Dans les équipes féminines, même à très haut niveau comme vous, c'est tellement pas le même niveau de revenu que la question caritative ou la question du partage ou. Est-ce qu'elle se pose parce qu'en comparaison avec les garçons ou pas du tout parce que c'est vraiment pas payé pareil quoi.
Bah, pour Irène et Véronica, je crois qu'elles ne se sont pas posé la question. Hein. Elles ont
les deux
adhéré
filles
du PSG, tout de suite.
Ouais, ouais.
Irène Paredes et Véronica Boquete, qui est partie d'ailleurs en Chine ensuite. Elles ne se sont pas posé la question parce que c'est une cause qui est louable. Et cet argent dans un fonds commun permettra de participer à des actions qu'ils décideront avec les filles pour savoir à qui ils souhaitent faire bénéficier ce fonds commun. Et je trouve ça génial et je trouve ça regrettable qu'en effet les stars du football ne soient pas partie prenante de ça.
Neymar, il donnerait 1/1000 de son salaire, que ce serait probablement plus que les deux filles ensemble.
Ah ben, je pense qu'il n'y a pas photo. Enfin, c'est juste...
Peut-être 1 centime, ça l'angoissait. Il s'est senti mis sous pression. Donc, si tu nous écoutes, peut-être commence par 1/1000 et si ça va, tu t'en sors toujours.
Si t'en mets un deuxième, voilà. Soyons fous.
Un article à lire dans L'Humanité aujourd'hui, d'ailleurs. Et votre livre s'appelle Ne jamais rien lâcher. Et justement, le football féminin, là, on voit vraiment bien qu'il y a un amour du sport, des valeurs, etc. Parce que il y a pas l'appât du gain dans le foot féminin, ça en est certain. Alors, Alex, jamais rien lâcher. D'où ça vient chez Marinette Pichon ?
Commencez même par le moment où vous voyez des gamins jouer au foot et puis l'entraîneur leur dit, viens avec nous. Et vous répondez, mais je peux pas.
Je suis une fille.
Pourquoi ? Je suis une fille, je peux pas.
Ouais.
Donc ça au moins ça a changé parce que vous aussi vous avez pas lâché, vous avez été un excellent communicant pour votre sport.
Une excellente communicante
pour votre sport.
Oui, ben je crois que on pense pas à tout ça quand on commence à jouer au foot. Moi j'entends des bruits de gamins, des cris, je tire ma mère par le bras, on n'approche pas de la barrière.
Mais ça va être
moi j'ai
plus
juste
dur
envie
dans un club quand on est une fille.
Non parce que non, on est la chouchoute. Moi j'étais la chouchoute, j'étais au centre de toutes les attentions, donc c'était chouette.
Parce que vous jouiez bien.
Bah, parce que je jouais bien, parce que j'étais sympa aussi.
Ah, ça c'est
pas oublier ça, Alex. Je suis sympa. Je suis une nana sympa. Et du coup, ça fait beaucoup de choses. Voilà. Mais après, oui, non, la rencontre avec le ballon, c'était un grand moment parce que du moment où je vais franchir la main courante et que je vais commencer à taper dans le ballon, mais les gamins vont courir après et après moi parce que c'est moi qui tenais le ballon. Donc du coup, ça facilite l'intégration. Et heureusement que Patrick Kozek était là à ce moment-là parce que sans cette rencontre, cette première rencontre sur mon parcours de vie, ben, je n'aurais peut-être jamais connu ça, quoi. Et vécu cette carrière.
Et pour toutes les filles qui n'osent pas trop et qui voudraient se lancer, lire le livre de Marinette Pichon peut sans doute les aider aussi. Hippolyte Girardot, ouais. Vous êtes avec nous. Quelle joie.
J'y suis là, ça y est, j'y suis. Bon, Marinette, footballeuse. Alors j'ai compris, vouloir être footballeuse depuis l'âge de 5 ans quand on est une fille, c'est comme pas facile, quoi. C'est comme vouloir être président de la République quand on est Mélenchon, un truc qu'il ne faut pas faire, ou alors être boucher quand on s'appelle Guillaume Meurice, quoi. Le truc, on leur dit, laissez tomber les gars, c'est pas pour vous. Mais bon, c'est vrai que se battre contre le monde, contre ce qui vous empêche, contre les règles sans raison, moi je trouve ça assez cool et j'adore ça. Sinon d'ailleurs, je ne serais pas chroniqueur dans cette émission, vous imaginez bien, parce qu'un comédien n'est pas supposé écrire des textes, les réciter comme un perroquet, c'est tout ce qu'on lui demande. Bon bref, mais c'est comme vous, hein. Vous n'êtes pas spécialement censé envoyer des ballons au fond d'un filet. C'est pas très féminin ça, c'est pas comme aller acheter des melons avec un filet à provision par exemple. Bon, non, le truc pour vous, c'est plutôt secrétaire, diététicienne, babysitter, aide familiale. C'est du 96% en moyenne féminin, vous inquiétez pas. Et vous combattez le genre, je trouve ça admirable. Et je vous comprends très bien, parce que moi, une fois dans ma vie, j'ai voulu combattre le genre et faire un job genré à 99,8% féminin, sage-femme. Voilà. J'ai trouvé ce boulot, quand mon premier enfant est né, j'ai trouvé ce boulot absolument fascinant, attirant, fabuleux, voilà, et une terrible antidote à l'angoisse de la mort, angoisse dont s'occupent ma psy et mon fossoyeur, merci pour eux. Je voulais faire ce job, voilà, moi, si jamais acteur, ça marchait pas. Il y en a qui veulent faire acteur en plan B, moi, c'était sage-femme. Et c'est genré, sage-femme. Mais on m'a dit, alors laisse tomber, non, faut que tu sois patron, ou bien que tu joues au foot, ou bien, si t'aimes les bébés, tu sais quoi, sois gynéco, c'est plus pour toi. J'ai dit non, gynéco, non. Je connais le gynécologue, j'en ai vu, bien sûr, je les connais. Il s'occupe de votre femme, il est gentil avec elle quand il l'ausculte et il vous regarde d'un air très soupçonneux. Genre, c'est vous qui l'avez mise enceinte? Elle était saoule ou bien vous avez profité d'elle? C'est ça, salopard. Bah, enlève tes mains déjà. Donc, aucune envie d'être gynéco. Aucune. Non, mais sage-femme. Parce que la sage-femme, c'est merveilleux, c'est celle qui s'occupe du bébé dans la maman. Mais elle vous met dans la boucle, vous qui n'êtes pas enceinte. Elle vous fait sentir le bébé dans le ventre, elle vous encourage à lui parler, et vous aimez cette femme qui dirige votre main sur l'énorme ballon, justement, qui est devenu le ventre de votre compagne, et vous fait dialoguer avec la lienne enfermée dedans, quoi. C'est pas genré, c'est juste excitant. Et d'où c'est féminin? Pas du tout! C'est au moins un ton féminin que le foot, non? Elle parle bébé, elle l'appelle, il répond, il se tourne en suivant sa main. C'est dément. C'est un peu aussi dément que faire une roulette devant un stade debout. Non mais, et si jamais le gynéco est en retard, et ça arrive le jour J, et que le bébé est en avance, bah c'est elle qui va le sortir du ventre, c'est elle qui va le mettre au monde, c'est elle qui sentira le moment, oui le moment, un peu comme qu'on a l'occasion, vous comprenez, sur un stade, Marinette, quand le ballon, voilà, vient à vous, et que tous vos partenaires sont marqués, elles ont toutes des charlottes en papier bleu sur la tête, et alors on pousse, et on passe la première ligne, et on fonce, et une autre poussée, et on s'enfile, le couloir, à fond les crampons, ça y est, on y est presque, on le voit le bout et on pousse encore. Oh, il y a une ouverture, il n'y a pas grand chose, mais ça commence, ça commence, et on pousse encore, et là, un crochet, un deuxième, et la descente du ballon dans la surface, un crochet, un autre, on tire, mais la gardienne réagit, du poing, renvoie la balle, alors tu t'élances, tu sautes, ça y est, c'est l'ouverture, je vois la tête, goal, oh, le bébé, oh, quelle action, oh, mais quelle action. Quelle action!
On l'a perdu.
Je peux reprendre là-dessus, moi? Ce moment fort.
Ouais. J'adore le foot.
Ouais. Après ça, merci, je pense qu'on peut mourir tranquille.
On reprend notre respiration et on peut vous revoir sur franceinter.fr ou notre page Facebook Moulinet des bras. Marie-Ève Pichot est très impressionnée, elle repense au souffle aussi, on va aborder ce troisième sujet. Avec les scientifiques qui s'acharnent à déterminer notre espérance de vie, justement, de façon individuelle. Mais nous, on ne veut pas savoir. Arrêtez de chercher. Une équipe russe promet une analyse fiable et elle est disponible sur une appli gratuite.
Une grave question se pose. Plus d'une fois sur deux, la mort arrive-t-elle au volant d'une voiture?
Normalement, oui, Nicolas. Mais là, j'ai eu un petit problème avec la voiture. Elle est à l'entretien, alors j'ai pris la mobilette de mon beau-frère. Mais sachez que lorsque la mort frappe, elle ne prévient malheureusement pas toujours. C'est pourquoi il faut se tenir prêt en toutes circonstances. Hélas, il est toujours quelques inconscients, quelques réfractaires qui se croient à l'abri des coups de hache du destin. Hein?
Monsieur Manhattan, Benoît Poulvorde, traitons ce sujet rapidement, mais ça fait un peu flipper. Ces scientifiques russes, dont l'analyse est la plus fine pour déterminer l'âge auquel on peut mourir sur une appli smartphone. Je vous donnerai pas le nom parce que ça ne va pas vous rendre service.
Je vais pas donner le nom, je me suis inscrit. Alors, ils veulent avoir accès à pas mal de vos données, notamment tout ce qui est cardiaque.
Bah oui.
Et puis aussi des photos, genre les Instagram. Donc, à mon avis, si vous photographiez 4-5 hamburgers, il y a moyen que votre espérance de vie diminue. Et je suppose que c'est un algorithme qui fonctionne comme ça.
Vous oseriez aller voir, vous, Marinette, ou c'est le genre de choses où.
Ça me fait flipper, hein. Comme ouais. Vous, ça me fait grave flipper. J'ai pas envie de savoir que, et si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Alors, je sais pas franchement.
Il paraît que ça sert aussi à un petit peu se discipliner. Comment on fait pour ça?
C'est surtout de la grosse récupération de données perso en fait.
Certainement.
Non, moi je crois que j'ai envie de bouffer la vie comme je la bouffe aujourd'hui, autant que possible. Et puis on verra bien. On fait attention, hein, mais c'est vrai que si on doit compiler toutes les applis entre les applis pour les régimes, celle où savoir t'as bien mangé, t'as bien perdu, mais tu vas quand même mourir, tu vas peut-être gagner 15 jours de vie. Oui, on ne sait pas trop. Non, moi, ça me prend loin. Je préfère ne pas savoir.
Charles Aznavour a essayé et il devait décéder il y a 10 ans.
Marinette Pichon, on a envie de vous entendre comme comédienne.
Mais oui, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. La semaine prochaine, demi-finale de la Coupe de France, il y a Chambly, les Herbiers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, j'imagine que oui. Et est-ce que vous savez qui a écrit l'hymne pour Chambly? C'est Francis Lalanne qui s'y est collé. Alors évidemment, ça a démoralisé un petit peu l'équipe. Donc vous êtes coach, Guillaume et moi, on est dans l'équipe. On se lance.
Allez Chambly, allez nos joueurs. Allez Chambly, nos gladiateurs. Allez Chambly.
Crap, putain. Non, on est foutu là. C'est foutu.
Il faut qu'on déclare forfait, coach.
Bah, ouais, c'est foutu.
Non, pop, allez les gars, on y croit. Là.
Non, on y croit avec un hymne de Francis Lalanne, on n'y croit pas. Non.
Mais alors, on ne vous oblige pas à jouer la mi-finale avec des cuissardes.
Non, mais franchement, le port du catogan sera obligatoire et ça.
En quoi c'est gênant?
Bah, ça va nous ralentir,
bien sûr.
Vous plaisantez, aujourd'hui tous les footballeurs font des concours de coiffure.
Bah, c'est pas très gentil pour Zidane, ça.
Allez, Chambly, on se réveille.
Okay. Bah, tous les matins à 4h, hein, coach.
Bah, c'est quand même un peu tôt, non?
Non, mais parce que je dois ouvrir ma boulangerie, moi.
Votre boulangerie?
Bah, et footballeur, c'est pas mon métier.
Ça j'avais remarqué, mais bon, je comprends maintenant pourquoi on trouve souvent dans la farine.
Attends, moi aussi je me lève tôt, je dois aller à Rungis.
Bah, toi tu joues dans deux clubs en même temps?
Bah non, je vais chercher la marchandise pour tout ce qui est boucherie charcuterie.
Mais c'est quoi cette équipe d'amateurs?
Bah vous croyez pas si bien dire, hein.
On dirait le PSG.
Sauf qu'on n'a pas les mêmes salaires.
Et puis nous, si on est mené 4-0 contre Madrid, on se met à 11 dans le but et on se fait pas remonter.
Ça parle tactique.
Je pense qu'ils ont pas un Cristiano Ronaldo aux Herbiers. Hein.
Bah, c'est un club de fleuristes essentiellement. Ouais. Donc
justement, vous allez en faire qu'une bouchée.
Surtout moi. C'est parce que je suis bouché.
Non, j'ai pas compris.
En fait, t'es pas plus malin dans la vie, que sur le terrain. Hein.
Je sais pas, mais Alex. Les autres, ils m'appellent Francis Lalanne de l'entrejeu.
Évidemment.
Moi, je sais pas pourquoi il m'appelle le Salah Abdeslam de l'équipe.
Ah, c'est parce que dans les moments décisifs, on peut pas compter sur toi.
Ah, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ôtez-moi d'un doute, le gardien de but. Pourquoi vous le surnommez Zaya?
Ça passe souvent entre ses jambes. L'important, c'est une bonne chute dans un sketch.
Oui, t'as
merci Marinette Pichon d'être restée avec nous. Et on comprend l'une des raisons pour lesquelles vos équipes ont eu aussi beaucoup de succès, c'est que vous êtes souriante et vous mettez une ambiance de feu. Et ça fait.
Surtout le match débute un petit peu.
J'avais une belle team, merci pour votre accueil. C'était très agréable.
J'étais ravie de vous avoir comme capitaine d'équipe.
Charline va lire le bouquin et qu'elle va commencer le foot. Merci Marinette.
Vous Ça s'appelle « Ne jamais rien lâcher », paru chez First Edition. Merci à tous autour de cette table. Si on laissait le mot de la fin aux zadistes.
Hélas, il est toujours quelques inconscients, quelques réfractaires qui se croient à l'abri des coups de hache du destin. Hein.